Pour cette dernière session, nous avons la chance d'avoir Alain Rocher de l'École pratique des hautes études qui a pu revenir de Strasbourg, et ce qui vous explique que nous avons mis la dernière communication sur le Japon après ce feu d'artifice chinois. Et Alain Rocher, nous allons revenir à l'univers du Kojiki de ce matin, qui est surtout un symbole de la Abraxas, ou le Ouroboros plutôt. Et donc la mythéologie théoglossie chez Yoshida Ken Tomo et Yoshikawa Koletari.
J'espère que vous voudrez m'excuser de faire, malgré moi, de l'antrisme dans une après-midi qui est dédiée à la sinologie. Pour me faire pardonner, je vais essayer de m'écarter complètement de mon texte et puis peut-être de me brancher sur certains des problèmes extrêmement intéressants qui ont été évoqués par deux ou trois de mes collègues sinologues ces dernières heures, et en particulier proposer quelques variations japonaises sur ces questions passionnantes, soit de diglossie, soit même, parce que le Japon fait toujours mieux, je dirais triglossie ou tétraglossie, en chiasme, puisque c'est le cas à l'époque, essayer de voir comment la question de la resémantisation, alors non pas en littérature, mais dans ce qu'on pourrait appeler la tradition exégétique du Shinto ésotérique médiéval, se construit et se développe. Mon point de départ sera extrêmement limité, puisqu'il s'agit d'un mot, ou d'un binôme, pour le dire en sino-japonais, un binôme qui est composé de deux caractères chinois, le shen yu, enfin shen, l'esprit, divinité, et puis le yu, guo yu de yu, la parole, que l'on peut traduire approximativement par parole des dieux ou parole divine. Donc je tenterai de rappeler rapidement la préhistoire de ce mot avant sa transformation en notion ou en concept dans le dispositif herméneutique médiéval, en rappelant ses ambiguïtés. J'étudierai ensuite la façon dont ce simple mot accède au statut de notion lorsqu'il est intégré dans une théologie moniste très particulière entre le XVe siècle et le XVIIe siècle, dans le courant Yoshida, en gros. J'essaierai de montrer comment, de manière un peu plus pratique, ces positions théoglossiques débouchent sur des pratiques de l'étymologie très particulières et en même temps sur une poétique, si du moins j'ai assez de temps pour accéder à ce dernier chapitre, j'aimerais finir par ce développement poétique. Donc, Shingo, c'est un mot qui possède plusieurs lectures possibles, et qui repose sur l'idée apparemment simple ou banale, selon laquelle le dispositif du récit mythologique est centré sur des paroles divines. Alors, dire que les dieux apparaissent dans le mythe, et qu'à l'occasion, en plus de commettre des actes pendables, ils prennent la parole, ce n'est pas une thèse qui va bouleverser l'histoire des religions, ni même l'étude de la mythologie. Et pourtant, ce mot, apparemment si banal, va prendre une importance tout à fait particulière à partir du XVe siècle, et il va se développer de manière un peu parallèle à un cousin lointain ou à un faux cousin, qui est le mot Shinsho, pour le dire en japonais, ou on pourrait dire en chinois Shenshu, c'est-à-dire le livre divin. Autrement dit, cette notion de parole divine apparaît dans la foulée de la notion de la sacralisation de certains livres de référence, et en particulier le Nihonshoki, c'est-à-dire les annales du Japon, qui, dans la tradition Yoshida, ont acquis un statut tout à fait méta-historique ou méta-analystique. Ce ne sont plus des annales. C'est le paradoxe sur lequel j'essaierai de me pencher tout à l'heure. Donc ce mot, d'abord, j'annonçais tout à l'heure l'espèce de lourd passif d'ambiguïté sémantique qu'il traîne derrière lui, et que nos théologiens des XVe, XVIe ou XVIIe siècles n'ont pas totalement résolu. Cette jonction de deux sinogrammes peut se lire de différentes manières. Pour commencer par le deuxième, le yu chinois, ce go, on peut le lire théoriquement en japonais vernaculaire, soit katari, et dans ce cas-là le sens est plus proche du récit, ou alors koto, la parole, récit de Dieu ou parole des dieux. Et si l'on remonte très haut, on voit paraître un premier usage de ce terme avec, semble-t-il, une lecture qui semble être celle de Katari au tout début du 8e siècle, dans la fin du livre dont tu as parlé ce matin, à la fin du premier livre du Kojiki, à la fin d'une sorte d'échange de poèmes entre des dieux. Vous avez une sorte de glose intégrée dans le texte qui définit ces échanges de poèmes comme des récits divins ou alors des contes divins. Expression extrêmement ambiguë. L'autre lecture possible de ce mot, de ce caractère U, parole, et la lecture Koto, qui est extrêmement ancienne en japonais, bien sûr. Et il semble que dans l'Annal, qui est un peu le double savant du Kojiki, qui est publié 8 ans après, enfin le Nihonshoki, les Annales du Japon, le binôme réapparaît, et bien que personne ne connaisse exactement la lecture des caractères chinois du Nihonshoki à son époque, tout semble indiquer que la lecture katari n'était pas possible dans le cas du Nihonshoki, pour plusieurs raisons. La première étant que le mot est appliqué pour désigner plutôt des paroles oraculaires en période de crise, crise dynastique, crise de légitimité, qui frappe l'Empire, et plutôt dans les livres récents, les livres proto-historiques du Nihonshoki. Donc dans ce cas-là, non plus Kamugatari, mais plutôt Kangoto ou Kamugoto désignerait des paroles divines lorsque ces dieux ont été sollicités par des devins en période de crise. Donc, selon qu'on choisit la première ou la deuxième lecture, on s'aperçoit que les enjeux sémantiques sont entièrement différents, puisque le statut et même l'épaisseur de la parole qui est ainsi désignée varie considérablement. Dans un cas, il s'agit d'une sorte d'apax intensif, qui peut être soit poétique, soit incitatif, soit oraculaire. Ou au contraire, dans l'autre cas, il s'agit d'une sorte de séquence discursive qui est plus élaborée. Je n'ai parlé ici que du deuxième élément, le go de Shingo. Mais le problème de la relation entre le premier et le deuxième élément, la relation logique entre Dieu et parole, est au moins aussi compliqué, puisque, pour des raisons évidentes que tous les sinologues ou japonologues connaissent, la relation logique entre les dieux et la parole peut reposer soit sur, pour le dire en latin, sur un génitif objectif ou un génitif subjectif, n'est-ce pas ? Autrement dit, il peut s'agir d'une parole prononcée par les dieux eux-mêmes, génitif subjectif. Et en général, si l'on choisit la lecture koto, c'est la seule possibilité d'interprétation qui nous est laissée, d'où la lecture divinatoire dans le cas du Nihonshoki. Mais on peut avoir aussi une autre lecture, la lecture katari de tout à l'heure, et dans ce cas-là, il est évident que le curseur sémantique penche plutôt dans l'autre direction. On semble avoir affaire, lorsqu'on parle de kamugatari, à une sorte de classème générique, enfin, plutôt poétique, enfin, poésie ritualisée, extrêmement ancien, qui est plutôt neutre théologiquement, qui trahit déjà une sorte de codification institutionnelle de la poésie rituelle, et qui fonctionne un peu sur le modèle d'autres types que l'on retrouve dans des gloses anciennes du Nihonshoki, comme par exemple les termes de Amagatari Uta qu'on trouve sous le règne de Yuriaki. Donc vous avez des types de poèmes célestes ou des poèmes divins, par exemple, dont tout contenu théologique en apparence devait être absent, et qui servirait simplement à marquer typologiquement certaines formes d'expression poétique à dimension un petit peu narrative. En gros, la caractéristique de ces poèmes divins serait qu'ils mettent en scène des dieux, bien sûr, qu'ils ont une dimension non seulement narrative, mais parfois quasi épique, et qu'ils sont intégrés, ou ils semblent avoir été intégrés, dans des performances théâtrales ou chorégraphiques, au cours desquelles certains chants auraient été entonnés par les fameux aèdes, les katalibés. D'ailleurs, le fait que le nom de ce clan ou cette guilde soit très répandu dans les régions de l'ouest du Japon, dans l'Izumo, a poussé des spécialistes japonais à imaginer un foyer culturel dans cette région-là. La dernière ambiguïté, qui a fait que cette fois-ci, non plus le mot go, ou non plus la relation logique entre les deux, mais l'extension sémantique du binôme, Shingo, et qui déroule en partie de l'incertitude phonétique que j'ai relevée tout à l'heure, concerne beaucoup plus directement l'exégèse des mythes proposés par nos auteurs, Yoshida et Yoshikawa. Par ordre de compréhension croissante, on pourrait théoriquement distinguer soit un sens extrêmement étroit, une parole ponctuelle prononcée avec ou sans truchement sacerdotal par un dieu dans une situation spécifique, une extension médiane, une séquence déclarative, complexe, placé dans la bouche d'un ou plusieurs dieux, et enfin une extension maximale, un texte mythologique tout entier, acception qui semble être une innovation un peu plus tardive, une innovation du Shinto médiéval, et qu'il faut sans doute mettre en rapport avec ce binôme que je mentionnais tout à l'heure, cette fameuse notion de Shinsho, texte sacré ou texte divin, et dans ce cas-là on n'est plus dans la théoglossie, mais plutôt dans ce qu'on pourrait appeler une thèse, pour filer la variation posée par le sujet du colloque, hiérobiblique. Ces ambiguïtés vont rester très tard, jusqu'au Moyen Âge. Et on pourrait dire que tout en gênant l'interprétation de nos auteurs, elle va en même temps permettre toute une série de jeux sémantiques ou herméneutiques qui sont extrêmement prometteurs. Et entre parenthèses d'ailleurs, si vous me permettez une toute petite digression, le type d'amphibologie que j'ai mentionné n'est finalement pas aberrant en soi, pour ceux qui connaissent mieux le monde ancien ou méditerranéen ou grec ou gréco-judéo-chrétien. Le terme de logion, par exemple, dans sa version purement grecque ou dans sa version judéo-chrétienne, témoigne du même type d'ambiguïté, avec parole oraculaire d'un côté, puis après parole prononcée par le Christ dans une situation donnée. Fin de la parenthèse. Je n'ai pas demandé d'éteindre les micros ou la lumière. Mais, donc, avant sa réélaboration par le théologien dont je vais parler tout à l'heure, Yoshkawa, cette notion de parole divine connaît une première cristallisation dans la culture exégétique des Yoshida. Yoshida, c'est un ancien clan de devins qui occupait de manière traditionnelle des positions d'abord modestes et puis de plus en plus élevées au sein du ministère des Affaires divines et qui, depuis plusieurs siècles, étaient des spécialistes de la kéloniomancie, enfin, plastromancie, dans ce même appareil, le ministère des Affaires divines. Or, cette tradition exégétique Yoshida, yoshidienne ou rabbé, maintient ou juxtapose les deux pôles du champ sémantique de cette notion, sans résoudre leur tension. Lorsque Yoshida no Kanetomo, par exemple, à la fin du XVe siècle, dans la préface d'un commentaire sur le Nihonshoki, Nihonshoki Jindaisho, reprend ce terme pour qualifier le Nihonshoki, il lui donne son extension maximale et son sens fort de paroles prononcées par les dieux, mais dans son ensemble, le texte tout entier. Je cite le passage « Konofumi wa tada shingo onoburu ». Cet ouvrage ne consigne que les paroles divines. Il ajoute d'ailleurs « Watakushi koto okuwaz », ce texte sacré ne contient aucun ajout, aucune interprétation personnelle des compilateurs. Donc l'ensemble du texte, loin d'être une narration à la troisième personne, est une sorte de parole-récit prononcée à l'origine des temps, transmise par les dieux eux-mêmes. Et cette notion est poussée jusqu'à son point de dernière absurdité par Yoshida Kanetomo, puisqu'il est confronté à un texte qui, pour son malheur, est finalement le moins japonais des textes fondateurs, et qui en plus, pour son deuxième malheur, par une citation qui n'est même pas voilée, une citation directe du Huanantzen, soit l'une des premières phrases de la version principale du Nihonshoki, raconte la Genèse par le détour d'une citation savante empruntée, entre autres, au Huanantzen. Et pour être logique avec sa position, Yoshida Kanetomo nous affirme que cette phrase est en réalité une vraie parole divine et que les Japonais de l'époque de la compilation de Nihonshoki ne pouvaient pas encore connaître le texte du Huanantzen et qu'il s'agit donc d'une sorte de parallélisme spontané et que sans doute la version orale du Nihonshoki est beaucoup plus ancienne que cette espèce de réélaboration théorique du Huanantzen. On peut dire que, pour faire une petite parenthèse hellénistique, Kanetomo n'est pas très loin d'adopter la position de Clément d'Alexandrie, qui accusait finalement les Grecs dans leur mythe de n'avoir fait que détourner ou reprendre des traditions plus anciennes qui circulaient en Moyen-Asie depuis très longtemps. L'un des critères d'ailleurs du caractère divin de ce texte, à la différence du Kojiki ou bien du Sendai Kojirangi, c'est, disent nos auteurs, qu'il n'a pas de préface. Il n'est donc pas contaminé par une interprétation. Il n'y a pas de ce qu'on appelle en japonais de wataki koto, de phrase, de mots, d'interprétation personnelle des compilateurs. Et c'est d'ailleurs dans le même passage que notre Kanetomo réserve à ce même ouvrage l'appellation de Shinsho, qui remonte avant lui sans doute à l'Issei Shinto, un texte sacré. On sait que l'habitude d'installer un manuscrit du Nihonshoki devant l'entrée des sanctuaires commençait à se répandre à partir de la fin de la période de Kamakura. Mais malgré les apparences, ces deux notions sœurs, livre divin et parole divine, ne sont pas aussi homologues ou homogènes qu'il y paraît. J'aimerais même faire ressortir certaines contradictions entre les deux. Les Urabe, ou Yoshida, en sacralisant leurs livres, avec deux arguments un petit peu différents, s'enferment d'une certaine manière dans une alternative un petit peu fatale, ou logiquement fatale. Soit l'ensemble du texte doit être pris comme une parole divine, citation, glose, commentaire intégré dans le texte compris, ce qui serait bien sûr absurde, Soit on considère que dans la narration elle-même, il convient de distinguer les pures paroles divines de certains commentaires hindous qui s'y sont glissés par la suite, position philologiquement plus satisfaisante, mais qui bien sûr contredit totalement la thèse hiérobiblique globale de la tradition familiale yoshida. Dans les faits, c'est souvent cette deuxième interprétation philologiquement plus raisonnable qui s'impose dans la tradition yoshida. C'est pour ça qu'on voit très souvent dans leurs interprétations apparaître au premier plan ce souci philologique de distinguer dans les passages du texte la part de discours hostile direct, imputable directement au Dieu, de certaines adjonctions plus tardives des compilateurs. On le voit chez Kanetomo, on retrouve cette espèce de souci philologique chez Yoshikawa, de manière assez fréquente. Très curieusement, cette espèce de volonté de séparer les commentaires à l'intérieur de la narration de la pure parole divine originelle s'accompagne d'un œcuménisme extrêmement intéressant vis-à-vis de la prolifération des variantes qui composent le Nihonshoki. Mon collègue François Massé vous l'a peut-être dit ce matin, le Nihonshoki est non seulement une annale, mais en même temps un recueil de mythes qui possède la particularité à la fois intéressante et gênante pour les théologiens d'offrir non pas un discours homogénéisé de la Genèse, mais au contraire de juxtaposer une palette extrêmement variée d'interprétations différentes de cette Genèse, avec des ordres dans la théogonie par exemple, des métaphores, des traditions sans doute mythologiques extrêmement éloignées les unes des autres. Donc pour justifier la sacralisation de l'ensemble du texte, après avoir éliminé les commentaires, nos auteurs déploie une thèse qui est extrêmement intéressante, qui annonce un peu la neutralité mythologique moderne, qui est que l'ensemble des versions aurait à peu près la même autorité que la version principale, le Rommon, ou le Rombun, n'est-ce pas ? Toute la famille Yoshida invoque l'autorité d'un aïeul plus ou moins mythique, Kanebumi, qui affirme que la version NV1, NV2, les 2 ou 3, 4 versions de la Genèse, sont aussi les paroles du Dieu du ciel ou les paroles du Dieu enfoui au fond des mers, et ainsi de suite. Notre Yoshikawa, qui est un disciple beaucoup plus tardif, qui représente finalement les derniers mouvements de la théologie Yoshida, cette fois-ci lors du premier siècle d'Edo, au XVIIe, réutilise cette conception avec ses ambiguïtés, et il semble opter plutôt pour une option intermédiaire. Ce n'est plus l'ensemble du texte qui est sacré, mais plutôt ses deux premiers volumes, l'âge des dieux. Et cet âge des dieux serait non seulement une parole directe du Dieu, mais de manière plus paradoxale, une parole de Dieu qui apparaît plus tard dans la généalogie, les parents du monde, le dieu Izanaki, l'enfanteur des premières îles, par exemple. À partir de ces premières thèses élémentaires posées par nos auteurs, j'aimerais essayer de voir comment ils branchent sur cette position un peu curieuse toute une série de pratiques linguistiques ou interprétatives, et en particulier des jeux étymologiques, avant de glisser vers mon volet poétique. Le procédé étymologique que j'appellerais cumulatif, a une longue tradition au Japon. Il n'est pas nécessairement lié à la culture ésotérique dont je parle ici, mais objectivement, on ne peut pas contester que cette pratique de l'étymologie des mots-clés qui apparaissent dans les premières phases de la Genèse, ou même l'étymologie des noms de Dieu, consonne objectivement avec la thèse sur la nature divine de la parole fondatrice. Même si le lien entre les deux registres, chez nos auteurs, la théoglossie d'un côté et la philologie de l'autre, est simplement suggéré, sans donner lieu à une élaboration explicite. Quels sont les procédés les plus fréquents qui sont utilisés ? Là, j'en reviens au terme utilisé par mes collègues tout à l'heure. Apparemment, il s'agit d'une réutilisation des structures diglosse, mais une structure diglosse qui est en quelque sorte amplifiée jusqu'à ce qu'elle finisse par exploser. Elle se résout en triglossie ou en quadriglossie. Comment est-ce que ça marche ? On essaie d'abord de proposer ce que j'appellerais une herméneutique morphologique. On interprète la forme du kanji, le caractère chinois, de manière souvent assez fantaisiste, en utilisant le vieux procédé chinois qui consiste à traiter les sous-éléments d'un caractère unique comme s'il devait constituer une sorte de jugement prédicatif, une sorte de jugement analytique. Comme si, en gros, le deuxième élément du kanji était prédiqué et inscrit dans le concept du sujet. Vieux procédé qu'on trouve déjà en Chine, bien avant le Japon. L'intérêt chez nos Japonais, c'est qu'ils jouent sur des associations qui leur sont particulières. Derrière cette première strate, qui est l'analyse de ce qu'on pourrait appeler le graphosème, le sens même du sinogramme, nos herméneutes s'ingénient à multiplier les niveaux. On peut avoir ensuite un niveau, par exemple, phonétique, mais qui s'appuie sur la lecture, non pas purement japonaise, mais la lecture sino-japonaise, qu'on appelle en japonais « ondoku ». Le mot « tien » chinois, par exemple, se prononce en sino-japonais « ten », alors qu'en pur japonais, c'est « ama », pour prendre un seul exemple. Donc nos auteurs s'ingénient aussi à trouver des sens secrets derrière cette lecture sino-japonaise, comme si elle avait des racines proprement locales, tout à fait extérieure à la Chine. Kitaba Takechikafusa, par exemple, décompose le ten, ou voit dans le mot ten une sorte de contraction, enfin c'est une aberration linguistique, mais une contraction du ta, do, et puis de nen, qui est les années, do, nien, ce qui ne marche absolument pas en chinois, mais ce qui est, du point de vue phonétique japonais, tout à fait plausible. Je ne parle pas de linguistique ici. Cette multiplicité d'années correspondrait bien sûr à la symbolique de l'éternité du ciel et du dieu du ciel. Et derrière cela, vous avez une autre couche, qui est la couche vernaculaire au deuxième degré, c'est-à-dire la pure lecture kundoku, ama ou ame, qui est interprétée de manière très curieuse, non pas en termes proprement japonais, mais à l'aide de la théorie du bouddhisme ésotérique, la théorie du Aji Kongen Setsu, c'est-à-dire de l'origine magique de la lettre A, le alpha et l'oméga. Le A de ama serait l'équivalent du om sanskrit, et le ma serait la fermeture. Donc l'alpha et l'oméga seraient en quelque sorte inclus dans l'un des premiers mots de la genèse du mythe, et ça serait le sens japonais, un peu comme si nos herméneutes japonais contournaient la Chine pour accaparer un sens ésotérique indien, comme s'ils se branchaient sur un fond plus ancien que la culture chinoise. C'est un procédé extrêmement simple que je viens d'écrire, mais nos auteurs multiplient encore les procédés, ne serait-ce qu'à l'intérieur de cette dernière couche, la couche qu'on appelle en japonais kundoku, purement vernaculaire. Je vais donner deux ou trois exemples qui sont intéressants parce que dans le cadre d'une étude du mythe, ils prennent un relief tout à fait particulier. Alors, l'une des techniques les plus fréquemment utilisées chez tous nos auteurs, enfin depuis Kitaba Take jusqu'à Yoshida ou Yoshikawa, consiste non seulement à pratiquer cette espèce de saturation sémantique polysédimentée, mais à choisir dans le registre des lectures vernaculaires, kundoku, le plus grand nombre de séries d'homophones pour finalement générer les jeux de mots les plus prometteurs, afin de superposer à une première strate que moi j'appellerais, pardon pour le jargon, mais on pourrait appeler ça une sorte de mytho-étymologie, c'est-à-dire une étymologie qui postule un micro-récit originel qui justifierait un sens secret particulier. À cette mytho-étymologie, nos auteurs juxtaposent ce que j'appellerais encore un terme barbare, pardon, mais une crypto... Ce sont des ésotériques, donc ils aiment... Une crypto-étymologie, ou étymologie philosophique, qui va chercher un sens encore plus secret, myo, comme on le dit en japonais, un sens mystérieux, qui, lui, est la condensation d'une thèse théologique spécifique. Je prends un exemple, parce que ça peut paraître un peu abstrait comme cela. Prenons le mot fumi, qui est la lecture d'un très grand nombre de caractères chinois. Ça peut être la lecture du caractère chinois Wen, Zhongwen de Wen. Ça peut être la lecture du caractère chinois Shu. Ça peut être la lecture du caractère du grand historien Shu, etc. Vous avez au moins une dizaine de caractères chinois qui peuvent se lire en japonais Fumi. C'est un mot qui est un faux terme vernaculaire. Tout le monde sait que le mot Fumi est en réalité un terme sino-japonais qui a subi un augment. On a rajouté le I derrière et il s'agit simplement du pun, n'est-ce pas, qu'on a vernacularisé. Mais ce mot fumi excite la pulsion herméneutique de nos auteurs et on peut y voir un bon exemple de démultiplication sémantique. Le premier sens que j'appelais moi, le sens mytho-étymologique, consiste à faire remonter l'usage de ce mot à deux anecdotes, l'une chinoise et l'autre japonaise. L'une, c'est la fameuse légende de Zhangxie qui aurait inventé l'écriture en contemplant les traces d'animaux laissées au bord de, enfin, sur la plage au bord des fleuves. Et deuxième anecdote, elle proprement japonaise, qui vient en quelque sorte gommer, enfin, comme une sorte d'étymologie palimpseste, enfin, gommer la première, qui est une anecdote sans doute tout à fait artificielle, réinventée et réinterprétée après coup, qui raconte que sous le règne de l'empereur Ōjin, celui même qui avait importé les caractères chinois, un émissaire coréen présentant des tribus à la cour avait lu un écrit dont la teneur aurait été particulièrement offensante pour la cour japonaise, puisqu'il contenait le terme « donner des instructions » ou « instruire le souverain japonais ». Donc le prince héritier Uzino Wakiratsuko, entrant dans une rage folle, aurait pris ce fumi, ce wen, ou ce shu, pardon, en l'occurrence, et l'aurait déchiré sous les yeux horrifiés de l'émissaire coréen, et l'aurait, nous dit le texte, piétiné. En japonais, piétiné se dit fumi, et donc l'écrit serait l'origine de cet auguste piétinement qui repose sur une négation de l'écriture chinoise et sur l'annonce d'une autre écriture parallèle potentielle. Quant à l'étymologie philosophique, elle, fournie de ce mot par Yoshikawa, elle repose sur une autre contraction et un autre jeu de mots. Elle révèle la fonction, cette fois-ci métaphysique ou mystique, du livre divin qu'est le Nihonshoki, puisque dans ce cas-là, fumi, livre, serait, semble-t-il, nous dit-il, la contraction du verbe fukumu, fukumi, qui veut dire contenir, et cette annale, ou bien cette genèse, aurait pour sens secret le fait qu'elle contient les principes des 10 000 lettres, n'est-ce pas ? Fumi, et je répète la contraction de ce fukumu. Le nom du Japon, vous le connaissez tous, est soumis à ce même traitement ou cette même gymnastique, puisque on peut découper de deux manières ce fameux mot de Yamato. D'un côté, il y a bien sûr Yama, la montagne, et puis To, les traces. Le Yamato serait, en tant que mytho-étymologie, le rappel de l'état encore liquide de la terre originelle, lorsque l'humanité primordiale se voyait privée d'accès aux terres basses, était contrainte donc de chevaucher ou de cheminer dans les montagnes en laissant des traces dans les montagnes, Yama, ni To, Ato. Mais le sens caché, le sens cryptique dont parle Yoshikawa est encore plus étrange d'un point de vue purement linguistique, puisqu'il découpe le mot Yamato autrement, en séparant le Ya d'un côté et le Mato de l'autre. Ya désigne la flèche en japonais, et Mato c'est l'objectif. Donc l'objectif sacré ou secret du livre consisterait à atteindre comme une flèche cet objectif Mato, très éloigné, qui est l'origine imperceptible ou très lointaine du monde, c'est-à-dire la première création, dans sa version japonaise. À ce découpage aberrant se superpose le troisième sens qu'on a vu tout à l'heure dans le cas de Ama. Le Ya de Yamato est présenté comme un allophone équivalent au fameux A sanskrit, non seulement la première voyelle, mais la voyelle génératrice de tous les sons et génératrice de tous les êtres et de tout le mécanisme cosmique. Alors évidemment, quand un lecteur occidental lit ce genre de manipulation sur les mots, sur l'étymologie, je crois qu'il ne peut pas s'empêcher de penser au cratyl et surtout, si j'ai bonne mémoire, à la première moitié du cratyl, lorsque Socrate prend la parole et qu'il s'amuse ironiquement à pousser son adversaire dans les cordes en utilisant des explications de plus en plus absurdes sur les termes grecs, par exemple théos, le mot grec, le mot dieu, est rapproché du verbe tein qui peut vouloir dire courir dans certains cas, car les dieux ont pour particularité d'être extrêmement mobiles, ainsi de suite. Sans parler de la quadruple racine du nom d'Apollon. On a vraiment l'impression d'évoluer dans cet univers de la manipulation des mots, qui est celui d'Héraclite Dupont ou bien de Tiphrone, qui était très célèbre à Athènes à cette époque. Et pourtant, chez nos auteurs, il y a parallèlement à cela une connaissance philologique assez précise. Ils savent ce qu'est un athégie et ils essaient de faire les différences entre les athégies et puis l'interprétation sérieuse des caractères. Et en plus, cette manipulation prend place dans une théorie plus générale qui est celle, et là les sinologues reconnaîtront quelque chose qui n'est pas d'origine japonaise, celle selon laquelle les signes sont inscrits dès l'origine dans le tissu du monde, un peu comme le wen, n'est-ce pas, ou le li, qui est un peu la veine de la pierre. Ils sont inscrits dans le tissu du monde, un peu comme comme on le disait sous la Renaissance, les signaturae rerum, les signatures des choses. Chaque chose possède sa propre signature, et le bon herméneute doit savoir l'identifier pour trouver la caractéristique de la chose. Alors ce qui est très curieux, c'est cette théorie morphologique est d'origine tout à fait chinoise et réinterprétée de manière un peu particulière par nos herméneutes qui sont eux-mêmes à l'origine des chéloniums anciens transformés plus tard en herméneutes textuels. Mais ils n'ont pas oublié leur culture de chéloniomancie. Ils affirment que les signes utilisés en chéloniomancie ne sont autres que les graphes de l'âge des dieux, ce qu'on appelle en japonais Jindai no Moji, des signes mystérieux qui auraient existé avant l'importation des caractères chinois et qui collaient de manière plus intime à la réalité des choses avant l'importation de ces concepts artificiels que sont les kanji chinois. Donc notre tradition de chéloniomancien essaie de faire fond sur cette théorie des signatura rerum pour essayer de construire, en doublant encore une fois le modèle chinois, une sorte de morphologie seconde qui serait plus primitive et plus proche de la période de la fondation. D'ailleurs, chez tous nos auteurs, entre Imbe no Masamichi ou bien Yoshina no Kanetomo ou Yoshikawa, on trouve très fréquemment la métaphore du livre du monde. On trouve cette idée selon laquelle plus que les ouvrages humains qui, même lorsqu'ils contiennent certaines paroles divines, présentent toujours le risque d'être retravaillés ou transformés, la dynamique du cosmos, le jeu des figures objectives du cosmos, constitue le texte par excellence, d'une authenticité incontestable, puisqu'elle retransmet, il y a peut-être un jeu de mots japonais là aussi, la factualité pure des événements cosmiques, koto en tant que shi, et non plus koto en tant que parole, qui offre, nous disent nos auteurs, l'œil même du Shinto, sa référence première. Je cite une phrase très célèbre qu'on retrouve chez plusieurs de nos auteurs. Shinto wa, le Shinto wa, ametsushi omote shōjaku, ou bien shōseki toshi. Le Shinto considère le ciel et la terre comme ses ouvrages de référence, comme ses textes fondamentaux. J'aimerais donc, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, essayer de...
Que tu mords sur les discussions.
Je saute donc.
Non, je t'en prie, vas-y.
C'est développement sur l'étymologie chez nos auteurs. Je condense un petit peu et je saute au dernier volet que j'aimerais aborder, c'est-à-dire le prolongement, je dirais, poétique de cette conception un petit peu particulière. On a parlé jusqu'à présent de jeux qui pouvaient être apparemment entièrement stériles, mais qui avaient quand même un objectif extrêmement intéressant, qui était d'un côté de multiplier tous les paliers de sens, et en même temps de rendre possible un travail de lecture ou d'interprétation qui est celui du transcodage. Comprendre un texte est synonyme finalement d'une sorte de virtuosité de transcodage ou de traduction interne, comme l'ont dit certains de mes collègues tout à l'heure, mais traduction interne non pas exactement dans la même langue, mais d'un code culturel vers un autre à l'intérieur de cette langue. On peut coder un texte en termes crypto-bouddhiste, par exemple, ou bien crypto-néo-confucien, surtout au XVIIe siècle, ou bien alors essayer de reconstruire ces sens-là à partir d'une sorte de culture ou de théologie shinto réinventée de bric et de broc au XIVe siècle. Prenons un exemple très simple de ces inversions-là. L'étymologie peut être une thèse théologique cachée. Le terme de shu-wu, je crois, shu, le vide, qu'on trouve très fréquemment en chinois, et associé au « wu », une autre forme du néant, du non-être ou du « il n'y a pas », est interprété à l'envers par nos auteurs puisqu'ils le lisent en vernaculaire et le comprennent non plus comme une négation renforcée, mais au contraire comme une double négation qui s'annihile. Donc il s'agirait non de l'absence du vide, du « soranaki », non plus le vide complet ou une sorte de vide total, mais de « soranaki ». Ce jeu de mots sert à justifier une thèse anti-vacuitiste qui est à la base de l'interprétation que font nos auteurs sur la mythologie et la genèse, qu'elle soit empruntée au Yinyang Wuxing, par exemple, ou bien à d'autres textes chinois. J'ai un peu sauté la partie intermédiaire, je suis passé à la conclusion, à l'arrière-plan, en quelque sorte, théologique de ces jeux étymologiques. J'espère que vous avez fait la liaison. Et je passe maintenant rapidement à l'application, en quelque sorte, poétique de ces conceptions théologiques d'un côté et étymologiques de l'autre. L'idée que la poésie trouverait son origine dans les premiers chants entonnés par les dieux est en soi un lieu commun, une banalité depuis très longtemps au Japon, je crois. Je ne sais pas, Soumier pourra me confirmer ça. Enfin, depuis au moins la préface en japonais du Kokinshu, l'idée que le waka prend son origine dans certains des premiers kaiō, vous traduisiez tout à l'heure kaiō de manière particulière qui m'avait intéressé, si on traduit ça au Japon, c'est un peu particulier, c'est des poèmes à forme non standard. Cette idée est présente partout, on la retrouve au Moyen-Âge, elle survit même jusqu'au seuil de la période Edo, par exemple, dans un grand nombre de théories poétiques. L'un des plus connus au seuil d'Edo, c'est le fameux Keiichi, qui a proposé une sorte de mystique de la poésie qui est restée très célèbre à cette époque. Mais ce qui est le plus intéressant chez nos auteurs, c'est qu'ils prolongent non pas cette banalité, les premiers poèmes des dieux sont à l'origine des poèmes humains, mais une thèse qui semble avoir des origines dans la culture ésotérique et dont on trouve les premières formes dans des gloses intégrées dans le texte même de la préface du Kokinshu. Dans ces gloses-là, on affirme que ce ne sont pas les premiers poèmes des dieux, mais les premiers échanges de paroles plus ou moins ritualisés des dieux fondateurs lorsqu'ils tournent autour du pilier qui serait le prototype de la future poésie. Donc, ces paroles rituelles qui ne sont pas encore formalisées, qui sont des espèces d'exclamations érotico-rituelles avec une valeur performative, « Oh, le bel homme, oh, la belle femme », etc. En gros, comme le disaient autrefois les tenants de l'école de Cambridge, des gens comme Cornford ou bien Jane Harrison, ce serait un peu le légoménon de tout rite, la parole plus ou moins formalisée qui accompagne tout geste rituel serait le point de départ de la poésie en général. Et elle continuerait à être investie de cette espèce de pouvoir magique, semble-t-il. C'est cette idée dont on trouve la trace dans ces vieilles gloses, qui est reprise sans doute plus tard par Teika, le grand poète du Moyen-Âge, qui, d'après nos propres auteurs, l'a transmise à la tradition Yoshida, qui va survivre jusqu'au XVIIe siècle. Donc, la poésie n'est plus un clin d'œil, finalement, à cette espèce d'origine prestigieuse, mais elle prétend poursuivre cette espèce de fonction rituelle, et je suis presque tenté d'utiliser un terme néoplatonicien, je dirais presque une fonction théurgique. La poésie possède une fonction théurgique, elle permet... Là encore, je n'ai pas le temps de développer cette thèse de la théologie Yoshida, mais elle permet au poète ou à l'homme en général de faire advenir cette espèce de divinité ou de nature divine qu'il possède en lui, mais qu'il a laissé s'obscurcir. Donc il y a toute une série d'exercices très particuliers, qui sont à la fois rituels, qui peuvent être spirituels ou ascétiques, mais en même temps qui utilisent très fréquemment le vecteur de la poésie et qui permettent à l'homme, justement, en quelque sorte, de développer dans la culture shinto ce que le bouddhisme connaît depuis très longtemps sous la notion de soit d'embryon de Bouddha, soit de virtualité d'éveil, de potentialité d'éveil ou de nature de Bouddha, Fōshin. En quelque sorte, c'est une autre notion un peu similaire, passée peut-être par la médiation de Zihen, qui s'installe dans la théologie médiévale japonaise et qui se traduit dans une pratique de la poésie mystique, si l'on peut dire, puisqu'elle est présentée comme le point de départ, en quelque sorte, de l'action divine, théurgie, et en même temps le fondement de l'éthique, au nom d'un autre jeu de mots que je vous épargne, qui constitue le secret des secrets de la thèse de Yoshikawa, et qui repose sur un jeu de mots entre la vertu d'humilité, tsutsumi, la terre, et en même temps, bien sûr, le goût de la terre et la vertu de Cheng qui figure au tout début du traité de Jodo-in, grand auteur de la période Song. Donc cette importance accordée à la poésie trouve une sorte de formulation officielle au XVIIe siècle au Japon, aussi bien chez Hagiwara Kaneyori que certains de ses disciples, sous la forme de l'unification des trois voies, la voie royale, Wangdao, c'est la voie des rois, Odo, la voie des dieux, Shinto, et la voie de la poésie, Kado, qui est censée constituer la base à la fois identitaire et mystique de la constitution même de l'État en reformation. Voilà donc ce petit parcours sur le devenir de cette notion de Shingo, parole divine. J'espère avoir montré au moins que malgré les ressemblances avec les ennemis de Socrate dans le Cratyle, ces jeux de mots reposent sur une sorte de nécessité théologique. Derrière tout cela se dessine en filigrane la fameuse thèse de Yoshida ou de Yoshikawa qui est la théandrie, l'homme possède naturellement une nature divine. Je sais que cette démonstration a été faite de manière assez maladroite et vous risquez peut-être de tomber le carib dans Scylla et de croire que cette herméneutique particulière, même si elle n'est pas celle d'Héraclite Dupont, ressemble peut-être au, au boa constrictor dessiné par le petit prince, surtout le boa constrictor lorsqu'il vient d'avaler l'éléphant et qu'il peine à le digérer. Et pourtant, deux ou trois points méritent d'être retirés ou extraits de ce petit parcours. C'est que nos auteurs ont montré que l'interprétation, de manière systématique, devait ou ne pouvait que reposer sur des jeux de traduction à l'intérieur de différents paliers de sens, d'une part. Deuxième caractéristique tout à fait évidente chez nos auteurs, c'est que ce découpage en paliers ou cette espèce d'herméneutique feuilletée qu'ils développent, si elle prend comme point de départ la situation diglossique, débouche sur un dépassement complet de la diglossie, puisque les strates vernaculaires sont elles-mêmes entièrement contaminées par des notions de bouddhisme ésotérique, et inversement, les strates soi-disant chinoises, empruntées à la culture savante ou à l'interprétation supposée des graphes ou des sinogrammes, sont-elles entièrement vernacularisées. Ces jeux de mots n'ont peut-être pas eu de lendemain, ils ont toutefois duré 4 ou 5 siècles et fondé un courant assez important dans la théologie shinto. Ce qu'il y a peut-être d'intéressant, c'est qu'ils ont alimenté une mystique de la poésie qui a survécu jusqu'au seuil de la modernité et qu'indirectement, ils ont trouvé une survie tout à fait improbable dans le discours de certains folkloristes japonais de la première moitié du XXe siècle. Et je pense par exemple à de grands ethnographes qui étaient en même temps de grands poètes, comme Horiguchi Shinobu, qui, dans son interprétation étymologique du Norito, retombe, le sachant ou sans le savoir, sur les interprétations ésotériques du courant de Yoshida.
Merci beaucoup, Alain, vraiment, c'était aussi un...